France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
2025 marque le centenaire de la naissance et les 30 ans de la mort de Gilles Deleuze. Pour l'occasion, nous ouvrons toute cette semaine un livre emblématique de son œuvre, écrit avec le psychanalyste Félix Guattari, l'Anti-Œdipe. Et aujourd'hui, car il faut bien revenir au sous-titre de cet ouvrage, Capitalisme et schizophrénie, et à son contexte de rédaction, l'après mai 68, on se demande, faut-il lire l'Anti-Œdipe comme un livre d'intervention politique, un peu daté, ou comme un livre d'éthique intemporelle, tel que le présentait Michel Foucault.
L'ennemi majeur, l'adversaire stratégique de l'Anti-Œdipe est le fascisme. Et non seulement le fascisme historique de Hitler et de Mussolini, qui a su si bien mobiliser et utiliser le désir des masses, mais aussi le fascisme qui est en nous tous, qui hante nos esprits et nos conduites quotidiennes, le fascisme qui nous fait aimer le pouvoir, désirer cette chose même qui nous domine et nous exploite. Je dirais que l'Anti-Œdipe, puissent ses auteurs me pardonner, est un livre d'éthique. Le premier livre d'éthique que l'on ait écrit en France depuis assez longtemps. C'est peut-être la raison pour laquelle son succès ne s'est pas limité à un lectorat particulier. Être anti-Œdipe est devenu un style de vie, un mode de pensée et de vie. Comment faire pour ne pas devenir fasciste, même quand, surtout quand, on croit être un militant révolutionnaire ? Comment débarrasser notre discours et nos actes, nos cœurs et nos plaisirs du fascisme ? Comment débusquer le fascisme qui s'est incrusté dans notre comportement ? Les moralistes chrétiens cherchaient les traces de la chair qui s'était logée dans les replis de l'âme. Deleuze et Guattari, pour leur part, guettent les traces les plus infimes du fascisme dans le corps. En rendant un modeste hommage à saint François de Sales, on pourrait dire que l'Anti-Œdipe est une introduction à la vie non-fasciste.
Bonjour Frédéric Rambaud.
Bonjour Géraldine Moussasfa.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à Paris 8, donc à l'université de Vincennes, là où enseignait Gilles Deleuze. Vous êtes auteur de « À contre-temps, révolte, archaïsme et capitalisme » paru au PUF, et aussi auteur du livre « Les secondes vies du sujet Deleuze, Foucault, Lacan » disponible aux éditions Hermann. Alors, selon vous, l'Anti-Œdipe est-il un livre d'intervention politique ancré dans une époque, celle de mai 68, de l'après-mai 68, de son échec aussi, du règne de la psychanalyse, ou, comme le dit Michel Foucault dans cette préface à l'Anti-Œdipe, un livre d'éthique et donc avec une part d'intemporel qu'on pourrait ouvrir aujourd'hui en disant « bah tiens, j'ai pas envie d'être fasciste, donc je vais lire l'Anti-Œdipe ».
Oui, alors bon, c'est ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est la grande ironie de Foucault, comme d'habitude. Et donc, quand il présente l'Anti-Œdipe comme un livre d'éthique et d'introduction à la vie non fasciste, il ironise parce que, d'une certaine manière, ce que n'ont pas cessé de déclarer Deleuze et Guattari, c'est que l'Anti-Œdipe était un livre de philosophie politique. Ça, ils n'ont pas cessé de le dire. Et donc, c'est évidemment un livre d'intervention dans une conjoncture politique sur lesquelles, bon, on pourra dire quelques mots. Je crois que cette manière dont Foucault les présente comme des dévots, hein, bon voilà saint François de Sales, oui, des moralistes chrétiens, est ironique, mais qu'au fond, dans cette idée de l'éthique et du style d'existence et du style de vie, il y a un vrai nouage précisément entre l'éthique et la politique. Ce qui reviendra en fait bien plus tard, là on est en 77, quand Foucault édite cette préface, il y reviendra en 84 sur cette éthique et ce style d'existence en parlant des cyniques grecs. Et s'il y a bien une position philosophique qui me semble correspondre avec celle de l'Anti-Œdipe, c'est pas celle des moralistes chrétiens, mais c'est celle des cyniques. Y compris dans leur manière de faire de la parole libre une parole de satire, d'humour, de mot d'esprit permanent, de récuser les vertus du commentaire, de faire un livre qui fasse la guerre, de donner des coups de bâton plutôt que des longs développements argumentatifs. À propos des cyniques, Foucault disait « c'est un militantisme ouvert, universel, agressif, dans le monde et contre le monde ». Je trouve que c'est une formule qui pourrait assez bien résumer l'Anti-Œdipe, c'est-à-dire cette manière de produire des secousses qui convertissent brutalement à la nécessité de changer de vie et de changer de monde. Et donc, il y a un rapport à la politique, mais qui a un rapport critique à la politique. Hein, c'est-à-dire, d'une certaine manière, le style anti-œdipien, on pourrait dire que c'est un style anti-politique à sa manière. Il refuse toute forme de différenciation sociale, comme les cyniques refusaient le nomos de la police. Et en même temps, par sa critique sociale, sa contre-culture, il est forcément en train d'entrer dans un rapport critique à la politique, et donc dans une relation politique, mais paradoxalement politique. Hein, politique qui...
qui est branchée, critique le politique,
ouais,
quoi.
En tout cas, qui est branchée sur les dehors de la politique. Mmh. Sur tout ce qui ne relève pas ou ne relevait pas jusqu'à présent de son domaine statutaire. Tout un tas de questions qui sont posées à la politique, et ça, c'est ce qui le branche directement sur mai 68. La question de la folie, de la sexualité, des femmes, des minorités, qui auparavant étaient reléguées au dehors de la politique. Donc, je pense que il n'y a pas d'opposition entre cette éthique dont parle Foucault et le fait que ça soit un livre d'intervention politique. En revanche, nous, ce qu'on peut se demander, c'est quand on lit l'Antiédipe aujourd'hui, on fait de l'histoire ou on fait de la politique?
Oui, exactement.
Et sans doute, on fait plutôt de l'histoire parce que c'est une séquence qui n'est plus la nôtre. Donc, on est obligé de faire cette histoire d'une conjoncture qui est révolue. Et en même temps, c'est en mesurant ces écarts et ces différences que peut-être on peut trouver dans l'Antiédipe des ressources pour interroger de manière critique le présent ou l'actualité qui est la nôtre. Alors, en même temps, il faut prendre la mesure quand même d'une conjoncture très, très spécifique.
Mais quand on ouvre l'Antiédipe, Frédéric Rambeau, il n'est pas question de mai 68. Guattari et Deleuze ne nous disent pas « nous écrivons suite à mai 68 où il s'est passé ça ». Ce qui fait que cette préface de Foucault, elle résonne fortement parce que l'idée de se dire « qu'est-ce qui fait que je ne suis pas fasciste, que je n'ai pas envie d'être fasciste, que je vais traquer en moi des traces de fascisme, quand bien même je serais révolutionnaire », est une question qui semble effectivement présente dans l'Antiédipe et débarrassée de ce contexte de mai 68.
Alors, quand l'Antiédipe s'inscrit dans le prolongement de mai 68, mais au sens où c'est une coupure qui n'est pas achevée. Ce que vous rappeliez très bien, c'est-à-dire, ils s'en expliqueront dans mai 68 n'a pas eu lieu, quoi, titre évocateur, bien plus tard, au sens où c'est une révolution avortée. Et donc, ce à quoi ils sont sensibles, c'est d'une part les déplacements que mai 68 a opérés dans le cadre et dans l'horizon de la révolution prolétarienne, mais ils sont aussi très sensibles à la réaction qui s'est immédiatement mise en place dans l'immédiat après 68. Réaction contre-révolution politique, contre les effets mondiaux des mouvements des années 60. Donc ce qu'ils appellent le fascisme, c'est évidemment en lien avec le fascisme historique. Là, ils ont une Mussolini, Hitler, ils proposent un renouvellement de la méthode d'explication du fascisme, sur laquelle, ce qui pose un certain nombre de problèmes, mais ils ont aussi une acception du fascisme plus générique qu'ils assimilent à la réaction et à la contre-révolution. Et là, c'est une intuition politique très forte, puisque ce qu'ils identifient, on est quand même en 72, c'est la manière dont les transformations du capitalisme dans les années 70 vont avoir une visée et une origine contre-révolutionnaire. Et que ce qui s'appellera plus tard, ce qu'on appellera plus tard le néolibéralisme, c'est précisément une stratégie, une contre-révolution qui vise à neutraliser tous ces mouvements dans les années 60 qui ont contesté l'hégémonie du capitalisme et à détruire les conditions de possibilité de leur convergence. Donc, c'est pas seulement une question éthique, il s'agit pas seulement de traquer le fascisme dans notre chair, les investissements réactionnaires du désir, mais c'est aussi une question éminemment politique.
Et il s'agit aussi de traquer les dimensions réactionnaires dans des groupes politiques. Parce qu'il faut dire aussi, Frédéric Rambeau, que quand Deleuze et Guattari écrivent dans les années, au début des années 70, donc dans l'après-mai 68, il y a quand même aussi, en réaction à ces groupes réactionnaires, des groupes qui se forment. Par exemple, le groupe d'information sur les prisons. On peut parler aussi du Phare. Donc, vraiment des groupes de mobilisation pour les droits des gays, des lesbiennes, des prisonniers. Donc en fait, c'est des réactions de réaction en réaction. Et c'est là où Deleuze et Guattari, effectivement, nous disent le désir n'est pas seulement une question qu'on trouve en nous, une question d'éthique, mais une question politique, dans le champ social.
Absolument, c'est-à-dire qu'au fond, on peut voir l'Antiédipe comme une sorte d'immense caisse de résonance de tout ce bouillonnement groupusculaire, vous avez rappelé un certain nombre de ces groupes, dans ces années-là. Et il y a dans l'Antiédipe un sous-texte militant qui est souvent implicite, hein, mais qui est très très important et qui est constitué par les divisions du gauchisme à ces époques-là. Ce qui apparaît dans l'Antiédipe, pas toujours explicitement, c'est vrai, mais comme les contradictions de la politique léniniste, les points de butée des Mao français, on est en 72, la filiation, je dirais, avec l'opéraïsme et ce qui deviendra l'autonomie italienne. Donc, il s'agit à la fois de penser, je dirais, un déplacement par rapport aux luttes marxistes, Oui, mais aussi la possibilité d'une unification, d'un regroupement de tous ces groupes au potentiel révolutionnaire, ce qui va se penser dans le grand concept guattarien de transversalité. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser à une irruption de désir, même si c'est très important, dans l'énonciation collective des besoins et des intérêts, c'est-à-dire les décrochés que produit le désir dans les intérêts objectifs, conscients des classes ou des groupes sociaux. Mais il s'agit aussi de penser les moyens d'unifier et de recréer un type d'organisation transversale qui ait une visée explicitement révolutionnaire, comme il le revendique dans l'anti-Oedipe. Ça qui est compliqué, c'est ce lien entre une politique du désir et ce qui devrait être la continuation par d'autres moyens d'une politique révolutionnaire.
On va revenir sur cette dimension, on pourrait dire peut-être pratique, pragmatique, presque manuelle de l'anti-Oedipe, ou pas, avec ses limites aussi. Juste encore un mot quand même sur le contexte, Frédéric Rambaud, parce que vous avez parlé des maoïstes, de l'opéraïsme, vous avez parlé du sous-texte militant de l'anti-Oedipe. Oedipe, d'où nous parle Deleuze et Guattari dans l'anti-Oedipe? De quelle frange politique et de quel est leur militantisme?
Et je pense qu'il y a, leur militantisme. Deleuze on a fait une possible généalogie justement dans un cours sur Foucault en montrant que pour essayer de trouver une solution aux contradictions de la politique léniniste, au point de buter des Mao, c'est-à-dire à une organisation, selon eux, trop hiérarchique de la lutte, qui présente l'organisation révolutionnaire comme une avant-garde antagoniste, qui est censée être un instrument d'unification immanent aux luttes, mais qui pratiquement est un instrument d'unification extérieure aux luttes. Et donc, ce qui reproche notamment aux partis, aux appareils de partis, leur mimétisme à l'égard de l'appareil d'État, c'est au fond de se substituer aux masses et à la créativité des masses. Donc il faut penser une autre manière d'unifier. Et c'est ça qu'ils vont trouver, me semble-t-il, dans ce qui va commencer à apparaître peut-être dans les années 50 avec la rupture yougoslave, c'est-à-dire des expériences et des théorisations de l'autogestion. Et c'est ces expériences qui vont comme ça essaimer par ligne brisée jusqu'en Italie, du fait de la spécificité du marché du travail en Italie. Et ce thème le thème de l'autonomie qui est très présent à l'époque va se nouer au thème d'un nouveau type de lutte possible, c'est-à-dire la possibilité en pays capitaliste d'un nouveau type de lutte, des luttes transversales. Et c'est le lien, l'articulation, le nouage entre ce thème de l'autonomie et les luttes transversales qu'on trouve au cœur de l'opéraïsme ensuite de l'autonomie italienne.
Pourquoi ça s'appelle opéraïsme, juste pour
les ouvriers, au fond Mario Tronti, ouvrier capital, et puis ensuite Tony Negri. Mais ce qui me semble important, c'est que apparaît à ce moment-là, c'est ça qu'ils vont retenir et qui va les aimanter, le thème d'une nouvelle forme de subjectivité. Introduire dans le marxisme une nouvelle forme de subjectivité, ce qu'on va retrouver après dans les groupes sujets.
Bien à distinguer d'une personnification, d'une subjectivité, c'est une manière de penser une incarnation peut-être d'un mouvement, une autonomie, mais c'est pas une manière de penser un parti derrière la figure d'une personnalité.
Non, absolument pas. C'est une manière de redonner à ce qui était considéré dans le marxisme orthodoxe comme superficiel dérivé, les paroles, les désirs, les imaginations, la subjectivité, l'importance de ce qui est le plus grave et le plus matériel. Et donc de faire de la subjectivité non seulement le point, de reconnaître que non seulement la subjectivité est le point de départ des relations de pouvoir dans le capitalisme, la première de ses productions objectives, la source de la plus-value, mais qu'en plus, c'est un levier stratégique pour penser une nouvelle organisation des luttes. Donc, un renouvellement de la politique subjective sous les traits d'une politique du désir.
Avant d'en venir à cette manière de penser une nouvelle politique des luttes de manière pratique, on va entendre la voix de Gilles Deleuze, c'est en 1972, et il nous parle du capitalisme, c'est quand même un des termes du sous-titre de l'anti-Oedipe. Que qu'entend-il par ce terme-là?
Si l'acte de base du capitalisme, c'est la disparition des codes sociaux, c'est ce que dit, c'est les choses les plus... clair, même dans Marx, le capitalisme, ça surgit avec le propriétaire privé et le travailleur tout nu. Le propriétaire privé, ça veut dire le décodage de la terre ne répond plus à des codes sociaux et devient objet de propriété privée. Le travailleur tout nu, ça veut dire la force de travail n'est plus codée et devient la pseudo-propriété personnelle d'un homme qui n'appartient plus à une caste. Alors si c'est comme ça, si la société capitaliste se construit sur le renoncement ou son impossibilité à coder les flux quels qu'ils soient, elle se trouve devant un problème: trouver un simili-code. Et pour ça, il faut toutes sortes d'opérations que la psychanalyse n'a pas inventées. Mais tout ce qu'on dit, c'est que la psychanalyse a été, et est à un moment du capitalisme, une espèce d'étonnant codage archaïque de l'homme privé, c'est-à-dire tout le code psychanalytique, consiste à restaurer un simili-code valable pour l'homme privé dans une société qui, elle, ne fonctionne plus sur la base des codes.
Nous sommes le 22 octobre 1972 sur France Culture dans l'atelier de création radiophonique. On y entend donc, on la reconnaît maintenant, la voix de Gilles Deleuze. C'est une archive très riche, surtout pour vous, j'imagine, Frédéric Rambeau, puisqu'on entend ce terme d'archaïsme, terme sur lequel vous avez travaillé dans la pensée de Deleuze. Mais avant de déplier toute cette archive, un point quand même sur ce qu'il entend par capitalisme. Il le définit ici comme la disparition des codes sociaux. Il cite Marx. Est-ce que c'est la définition qu'on peut donner le plus simplement possible du capitalisme et qu'il développe avec Guattari dans l'Anti-Oedipe?
Bon, là, c'est vrai qu'il faudrait préciser un peu le fait que c'est pas seulement un processus de décodage des flux, ce qu'ils appellent aussi un processus de déterritorialisation, ce que tout le monde peut comprendre intuitivement avec les délocalisations, par exemple, mais que ce décodage et cette déterritorialisation est intrinsèquement lié à une re-territorialisation. C'est-à-dire un dispositif de pouvoir. Et au fond, ce couple phare de la philosophie de Deleuze et Guattari, ou Guattaro-Deleuzienne, il faudrait dire, puisque c'est quand même des concepts de Guattari,
oui.
La déterritorialisation et la re-territorialisation, c'est l'interprétation qu'il propose de la description par Marx, dans le livre 3 du Capital, de la tendance historique du capitalisme. Donc, d'un côté, il y a un décodage et une déterritorialisation, c'est ce que rappelle, c'est ce qu'explique Deleuze très bien, c'est-à-dire que le capitalisme, l'avènement du capitalisme, c'est la rencontre ou la conjonction de deux flux, au moins de deux procès de décodage et de déterritorialisation. Le flux de travail, c'est-à-dire les travailleurs libres et nus qui n'ont plus que leur force de travail à vendre, travailleurs déqualifiés, un flux déqualifié, et puis le flux de capital, l'argent transformé en capital, la fraction monétaire.
Qui circule partout. Ce serait quoi, le laisser-faire, la circulation?
L'exemple des flux de capitaux, flux digital, qui circulent à vitesse infinie, virtualisés. C'est pas la monnaie sonnante et trébuchante qu'on a dans la poche, quoi, le flux de capital. C'est un flux de financement. Et donc, ce qui caractérise dans leur interprétation le capitalisme, et qui est à la suite de Marx, évidemment, c'est l'apparition d'un équivalent général, l'argent, qui va permettre de conjuguer tous ces procès de déterritorialisation et de décodage en les rapportant à une pure quantité. Et c'est ça qu'ils appellent l'axiomatique, hein, qui est leur définition du capital, c'est-à-dire la manière dont la stratification sociale, l'organisation sociale, ne passe plus par des codes en rapportant les flux économiques à des facteurs extra-économiques, politiques, religieux, juridiques, mais que la stratification sociale se fait à même les flux de la production désirante. Comment elle se fait à même les flux de manière immanente? Par des axiomes, puisque les axiomes, c'est ce qui rapporte les flux, les conjugue, ce qui peut les conjuguer, sans les rapporter à quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Donc c'est l'application d'un système d'équivalence. Ça, c'est le décodage. Mais l'axiome, il fonctionne aussi dans leur théorie comme une norme, ce qu'ils appellent une majorité. C'est-à-dire le fait de prélever ou de sélectionner dans les flux des éléments qui vont être intégrés à des grands ensembles dénombrables des majorités. Et cette opération-là, elle produit toujours en même temps des marges fuyantes, des ensembles indénombrables, des ensembles flous qui sont les lignes de fuite de l'axiomatique du capital. Ces points d'ébullition, ces points problématiques, ces points symptomatiques, des minorités. Et donc, dans le terme d'axiomatique, on voit bien que ce qu'ils veulent dire aussi, et ça c'est peut-être, un prolongement de Marx, c'est que le capitalisme, c'est d'abord une opération de pouvoir avant d'être une opération de profit. C'est une opération de capitalisation des différents types de pouvoir, une prise de contrôle sur une multitude de quantas de pouvoir, bien au-delà du seul travail salarié ou des biens monétarisés, qui autrefois restaient enquistés dans l'économie locale, libidinale, familiale. Oui, et donc, au fond, il y a quelque chose de l'antagonisme interne du capitalisme qui reprenne, c'est-à-dire le capitalisme comme un système immanent qui ne cesse de repousser ses limites et de les reproduire à une échelle élargie. C'est deux composantes qui sont absolument inextricables du capitalisme. Une composante de déterritorialisation, c'est-à-dire le développement absolu de la productivité sociale du travail, bien au-delà de ses possibilités actuelles, mais de l'autre côté, la re-territorialisation.
Parce qu'il faut bien contrôler quand même un peu ces flux.
Absolument, il faut bien les contrôler, il faut bien les conjuguer, mais la question c'est comment on les contrôle. Et ben, précisément par la création de systèmes de soumission, de répression, équivalents et substitutifs, oui, qui vont conjuguer...
Vous avez un exemple, par exemple ?
Par exemple. Ce que, à mon avis, tout le monde peut voir. Vous avez d'un côté, aujourd'hui, des passeports biométriques qui permettent une accélération des déplacements, avec des systèmes numériques, qui sont des systèmes de virtualisation, déterritorialisation. Et en même temps, vous avez dans le monde entier la construction de murs qui montrent bien comment cette déterritorialisation fonctionne, a besoin pour fonctionner, de recréer des systèmes de ségrégation, d'apartheid, sous les formes les plus archaïques, comme un mur, quoi.
Le sous-titre de l'anti-Oedipe, c'est « Capitalisme et schizophrénie ». La schizophrénie, on en parle depuis le début de la semaine, Frédéric Rambaud. On pourrait dire que c'est quoi, une libération maximale des flux de désir, c'est-à-dire on prélève, on coupe, c'est notre machine désirante qui bat son plein. Pourquoi la schizophrénie n'est pas ce qui définit aussi le capitalisme dans cette j'ai pas d'autre mot pour le dire aussi simplement, cette libération des flux finalement, la schizophrénie qui est le modèle promu par Deleuze et Guattari, pourquoi en fait ne convient-il pas au capitalisme?
Précisément parce que la schizophrénie c'est la déterritorialisation absolue. Le capitalisme, c'est la re-territorialisation de la déterritorialisation. Ce qu'il faut piger.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont retrouvés un peu embêtés, justement, face à ça, Deleuze et Guattari? Je veux dire, face à une contradiction au départ qui était, on promeut un modèle, ou pas un modèle, mais en tout cas, on pense une libération, et puis le capitalisme se définit ainsi.
Non, je pense pas, parce que, justement, c'est ça, il y a une contradiction, c'est pas une opposition. Donc, il y a un antagonisme interne dans le capital, et ce qu'ils appellent la schizophrénie, le concept qu'ils élaborent de schizophrénie, c'est la limite absolue du capitalisme. Mais c'est sa limite au sens d'une production désirante en tant que telle. Et la production désirante en tant que telle, le processus primaire du désir inconscient, elle est absolument impossible à intégrer, à enregistrer, à inscrire dans un corps social ou dans une organisation sociale. C'est ce qu'ils appellent le négatif de toutes les formations sociales. Sauf que toutes les formations précapitalistes, disent-ils, redoutaient ce décodage total des flux et le rejetaient au dehors. L'astuce du capitalisme, c'est d'avoir fait de cette négativité de la production désirante le moteur même de sa productivité. Donc le dispositif de pouvoir du capitalisme, c'est l'appropriation, l'exploitation de cette production désirante, de cette négativité qui en fait le moteur de sa créativité et aussi son point de crise mobile. Et donc, à la limite, ils s'amusent quand ils disent ça, comme d'habitude, il y a beaucoup d'ironie dans l'anti-Oedipe, la fin de l'histoire, ça serait le moment où précisément on passe de l'autre côté. C'est-à-dire, on passe de la face capitaliste, reterritorialisante du socius, sur la face d'une libération totale des flux désirants. Mais ça, je pense que ça reste une image dans l'anti-Oedipe et que la vraie question pratique, ou pragmatique, ou technique, comme ils disent, c'est d'être sensible à la manière dont la production désirante fait éruption, ou même éruption dans l'organisation sociale, plutôt que d'imaginer un déchaînement total des flux du désir.
Mais la question se pose d'ailleurs, Frédéric Rambaud, et est-ce qu'ils y répondent, Deleuze et Guattari? Comment on pense le fonctionnement de nos machines désirantes, c'est-à-dire vraiment de non pas de réprimer, mais vraiment de laisser s'exprimer nos machines désirantes sans les réprimer? Précisément, comment on accorde avec Deleuze et Guattari machine désirante et machine sociale?
Sans doute, il y a à la fois une question de technique subjective, c'est-à-dire une question plus clinique, qui relève d'une clinique des formes de subjectivité. Comment tu fais, toi, avec tes machines désirantes à toi? Il faut bricoler, il faut trouver les moyens de se brancher sur autre chose, d'essayer de trouver un devenir ou un destin à nos trajets pulsionnels qui soit pas l'inhibition, l'angoisse, la frustration, donc qui passe par des objets institutionnels qui nous permettent de donner un destin positif à ces pulsions, mais le propre de l'anti-Oedipe, c'est de nous montrer que cette question clinique n'est pas dissociable d'une question critique, hein, clinique et critique, qui est question critique, qui est celle d'une politique d'émancipation et des luttes dans lesquelles sont engagés les différents groupes. Donc on ne peut pas séparer les deux, et c'est bien ce qu'ils appellent la schizoanalyse. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une... Emmanuel David Ménard y revenait hier très justement. Il y a d'un côté un renversement de la psychanalyse, une question clinique qui consiste à dire on va partir des indications qu'on a recueillies à l'épreuve des processus psychotiques pour interroger les catégories descriptives de la névrose, et pas l'inverse comme avaient fait Freud et Lacan. Et à partir de là, on va essayer de penser comment cette autonomie expressive des singularités prémoïques transitionnelles peut aussi être...
Qu'est-ce que vous entendez par prémoïque? Je vous interromps.
Avant le moi, c'est-à-dire oui. des états d'intensité, sur lesquels vous êtes revenu d'ailleurs les deux matinées précédentes, des états d'intensité qui ne peuvent pas être recodés ou assignés à une individualisation des personnes ou des groupes. Voilà comment faire de cette limite absolue dont je parlais tout à l'heure un lieu d'intervention stratégique. Bon, c'est la grande question, évidemment, de l'anti-Oedipe.
Est-ce qu'ils y répondent?
Ben oui, ils y répondent. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de programme politique.
Ouais.
Ils y répondent en disant, ça, c'est un travail qui doit être collectif et qui doit se brancher sur les moments où on est capable de repérer les symptômes dans le champ social.
Mmh.
Autrement dit, la question, c'est de passer de ce qui apparaît comme des symptômes sociaux à une politique du symptôme. C'est-à-dire considérer que ce qui est symptomatique, c'est pas seulement ce qui manifeste dans le champ social l'extorsion de la plus-value, qui est cachée, qui est occultée sous les relations d'échange, sous les relations économiques ou les contrats de travail, mais qu'une politique du symptôme, c'est aussi restituer la dimension insurrectionnelle du symptôme. Dans la droite ligne de Freud et de Lacan, le symptôme, c'est la manière dont le sujet résiste à la forme qu'il assujettit, à l'état des choses, à l'ordre établi. Le réel que le sujet oppose à la réalité sociale qu'il détermine.
Mmh.
Ce que je suis en tant que je suis parlé par l'autre. C'est pas une recette. C'est pas un mode d'emploi, mais c'est quand même une manière de basculer, c'est ce qu'ils expliquent, de basculer d'une subordination de la production désirante par la production sociale à l'inverse. Mais pour précisément tenter de subordonner la production sociale à la production désirante, il faut travailler le symptôme, non plus seulement comme un symptôme social, la souffrance au travail, mais comme une politique insurrectionnelle du symptôme.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on dit peu les choses comme ça. C'est-à-dire que cette idée-là, pour le coup, loin de moi l'idée à tout prix de dire que l'anti-Oedipe, on peut le lire en 2025 et en faire un manuel de résistance, mais cette idée-là quand même de la politique du symptôme, ça change énormément de choses dans la manière dont on perçoit les choses. Déjà, dire que le désir traverse le champ social, c'est quelque chose. Ensuite, dire en fait que les symptômes ne sont pas forcément que des problèmes à régler, mais qu'en fait on peut se servir de ce symptôme pour résister, c'est quand même un sacré truc.
Alors ça, ce qui est très intéressant à mon sens, non seulement c'est très intéressant en tant que tel, mais on dit souvent que, et c'est un peu ce que Foucault, mais je laisse ça de côté, a dans la tête quand il parle du fascisme et de l'anti-Oedipe, on dit souvent que c'est un livre freudo-marxiste. Or, en réalité, si on voulait être précis, et ça apparaît peut-être mieux aujourd'hui, il faudrait dire que c'est un livre lacano-marxiste. Parce que cette idée d'une ils appellent pas ça une politique du symptôme, ils appellent ça la schizoanalyse. Mais cette idée d'interroger la production sociale par rapport à la production désirante, elle vient directement de Lacan. 68-69, c'est le moment où Lacan propose son interprétation du capitalisme. 69-70 aussi, dans ces deux séminaires. Et en fait, c'est Lacan qui a introduit rétrospectivement dans la découverte par Marx de la plus-value, l'idée que dans cette plus-value, si elle compte, si elle est effectivement le ressort du mode de production capitaliste, c'est parce qu'elle comporte un jouir, un plus de jouir. Sinon, tout le monde s'en désintéresserait. Et donc, la marchandisation de la force de travail, c'est-à-dire la condition de possibilité de l'extorsion de plus-value, cette marchandisation de la force de travail, c'est le biais par lequel le capitalisme parvient à mettre en forme la jouissance au moyen de la valeur. Et donc, c'est exactement ça, à mon sens, que vont prolonger Deleuze et Guattari en faisant de la production désirante l'impossible du social. Et l'impossible du social, c'est son réel.
Donc, mais ils ne le disent pas en tant que tel, Frédéric Rambaud. C'est-à-dire que ce dialogue avec Lacan, finalement, il tape sur la psychanalyse, il tape sur Oedipe, sur papa-maman, sur la manière dont la psychanalyse réduit tout à un roman familial, privé, uniquement lié à nos pères, à notre père et à notre mère. Mais finalement, en fait, il puise beaucoup de Lacan, alors.
Absolument.
Pourquoi ils ne le reconnaissent pas en tant que tel
Ça dépend comment on lit l'Anti-Oedipe. Oui. C'est toujours pareil. L'Anti-Oedipe, c'est un livre touffu, sublime et génial, mais qui ouvre des pistes complètement différentes qui coexistent parfois de manière opposée. Et ça demande un effort de lecture, puisque précisément, c'est la manière dont ils disposent des petites machines à explosion comme ça qui empêche que leur discours soit pris dans ce qui serait les effets de pouvoir de leur propre discours. Donc oui, ils tapent sur Lacan, bon voilà, ça c'est bien connu. D'un autre côté, ils disent aussi la théorie du désir admirable de Lacan. Ouais. Les machines désirantes, c'est directement quand même, faut le comprendre, et c'est ce que fait Guattari, une interprétation du séminaire 11 sur le circuit pulsionnel de Lacan. Mais y compris dans leur analyse du capitalisme, cette question de mettre la question du désir, alors le problème c'est que chez Lacan, ça s'appellerait plutôt la jouissance. Bon, je laisse ça de côté, mais mettre cette question du désir au cœur de la régulation sociale, des règles des rapports sociaux, je veux dire, c'est quand même dans la droite ligne de Lacan.
Ce livre, c'est un premier temps. Le pouvoir, en effet, on n'en parle pas parce qu'on est complètement obnubilé par l'État. Et c'est pas la meilleure position du problème, donc là, il faudra reprendre sur une nouvelle base. Au lieu de considérer le problème du pouvoir dans l'ensemble des formations sociales, on a considéré la naissance de l'État dans un type de formation sociale, par distinction avec les autres, et on n'a pas posé le problème du pouvoir.
L'axiomatique sociale des sociétés modernes est prise entre deux pôles et ne cesse d'osciller d'un pôle à l'autre. Née du décodage et de la déterritorialisation, sur les ruines de la machine despotique, ces sociétés sont prises entre l'Urstadt, qu'elles voudraient bien ressusciter comme unité surcodante et reterritorialisante, et les flux déchaînés qui les entraînent vers un seuil absolu. Elles recodent à tour de bras, à coups de dictatures mondiales, de dictateurs locaux et de polices toutes puissantes, tandis qu'elles décodent ou laissent décoder les quantités fluentes de leurs capitaux et de leur population. Elles sont prises entre deux directions, archaïsme et futurisme, néo-archaïsme et ex-futurisme, paranoïa et schizophrénie. Elles vacillent entre deux pôles, le signe despotique paranoïaque, le signe signifiant du despote qu'elles tentent de réanimer comme unité de code, le signe figure du schizo comme unité de flux décodé, schiz, point signe ou coupure flux. Sur l'un, elles font garrot, mais elles s'écoulent ou s'épanchent par l'autre. Elles ne cessent à la fois d'être en retard et en avance sur soi.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de l'Anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie, volume 1 de Deleuze et Guattari, lu par Nicolas Berger. C'est vous, Frédéric Rambaud, qui nous avez indiqué ce texte, cette manière dont l'axiomatique, nous disent Deleuze et Guattari, des sociétés modernes, est prise entre ces deux pôles, déterritorialisation et reterritorialisation. Ce sont des mots, vous en avez parlé, c'est le couple qui revient pour décrire ce capital, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de forme fixe à ce capital. C'est l'impermanence des formes que nous décrivent Deleuze et Guattari pour décrire nos sociétés modernes.
Oui, disons que plutôt que l'impermanence des formes, je dirais que c'est une question qui porte sur la temporalité de la machine capitaliste. Et ce qui nous indique dans ce texte, c'est ce qu'on pourrait appeler la temporalité asynchrone du capitalisme. C'est-à-dire le fait qu'en réalité, le capitalisme ne puisse jamais être contemporain d'avec lui-même, jamais synchrone d'avec sa propre coupure. Alors, ça, c'est évidemment, ça puise et ça s'inscrit dans ce que je rappelais tout à l'heure, c'est à l'analyse par Marx de cette contradiction interne du capitalisme. Il ne cesse de repousser ses limites, il les retrouve à une échelle élargie, ce que Marx appelait la dépréciation du capital existant et la création d'un nouveau capital. La dépréciation du capital existant, c'est ce qui produit des archaïsmes en série. C'est ce qui fait que le capitalisme est une entreprise de perpétuelle archaïsation. Oui. D'un autre côté, je crois que c'est intéressant dans ce qu'ils expliquent, c'est que le capitalisme n'est pas parvenu à son avènement une fois pour toutes.
Mais ça c'est terrible, non? Ça veut dire qu'on en aura... Enfin, je veux pas dire par là que je suis anticapitaliste, mais ça veut dire aussi qu'ils décrivent dans l'anti-Oedipe différents... sociétés, différentes machines sociales, différentes formations sociales. Voilà, il y a les sociétés primitives, il y a l'État, puis il y a le capitalisme. Et ça veut dire que le capitalisme, on n'en aura jamais fini, on passera jamais à autre chose.
Non, le temps, les luttes le diront. Mais non, je crois que c'est à mon avis, c'est pas ça l'idée. Ça, après tout, on verra. Mais non, je crois que ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est que le capitalisme ne cesse de réactiver, de faire ressurgir d'anciens dispositifs de pouvoir. C'est qu'il n'y a précisément pas une histoire linéaire où le stade capitaliste aurait définitivement fait que les anciennes formations seraient dépassées. Il les fait ressurgir. Il réinsuffle en permanence dans les sociétés capitalistes ce qu'ils appellent l'ourstat, c'est-à-dire, par exemple, la violence d'État, hein, l'État archaïque originaire, c'est-à-dire il réactive sa violence et sa prédation à chaque nouvelle création d'un capital. C'est une manière de reprendre ce que Marx pensait sous les termes d'une accumulation primitive. Mais Marx le pensait comme une accumulation qui aurait eu lieu une fois pour toutes. C'est l'idée que, au fond, c'est ça, cette temporalité asynchrone du capital, l'intervention de la politique d'État, l'intervention des formes du droit a précédé, a devancé l'introduction des formes de la structure économique. Elle les a devancées parce qu'elle les a rendues possibles. Alors Marx, il appelait ça la législation sanguinaire. Bon, c'est le fameux problème de la transition du féodalisme au capitalisme, à savoir les enclosures, la clôture des communs, mais aussi les guerres de conquête, les invasions, le crédit, la dette publique. Donc autant de dispositifs politiques qui ont précédé le capitalisme et qui lui ont permis d'introduire ces formes économiques. On pourrait dire, si vous voulez, c'est à mon avis ce que veulent dire Deleuze et Guattari, qu'avant même qu'une nouvelle formation sociale s'établisse, ces instruments de répression et d'exploitation sont déjà là. Comme des oiseaux de proie, c'est l'expression de Deleuze, qui tournent dans le vide, mais qui sont prêts à travailler dans le plein. Donc on est toujours dans des systèmes de décalage, de non-contemporanéité à soi, qui définit le propre même de la structure capitaliste.
Mais ce qui veut dire que, si je vous suis bien Frédéric Rambaud, le capitalisme ne revient pas à des archaïsmes, comme par exemple un droit qui serait extrêmement violent, à la figure d'un souverain qui serait tout puissant, pour pouvoir reterritorialiser, donc contrôler les flux, mais que finalement, toutes ces formes-là archaïques sont restées là. Et ce qu'on croyait être le capitalisme, à savoir peut-être du progrès, des avancées sociales, politiques, présentées comme telles à certains moments, ne les a pas effacées, mais au contraire, les a endormies pour les réveiller plus tard, mais elles n'ont jamais disparu.
Non, elles n'ont jamais disparu, mais c'est-à-dire que quand les choses ressuscitent, elles ne ressuscitent pas par les mêmes procédés qui les ont suscitées. Donc c'est toute la question du retour. Alors, ce qui est très...
c'est un rappel conscient à l'histoire en se disant je puise dans une boîte à outils historique en disant qu'est-ce qui a marché avant et puis comment contrôler les flux, je vais faire ça. Réminiscence presque inconsciente.
Non, je ne pense pas que ça soit ça. C'est le fait que d'un côté, vous avez des structures d'oppression et de soumission qui sont adaptés au capitalisme, ça, c'est le propre de l'État. C'est-à-dire d'avoir besoin d'un appareil d'État, de l'intervention constante de l'État pour créer de nouveaux capitaux. C'est à la fois c'est l'Ourstat, l'ancien Ourstat, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet ancien Ourstat, cet État originaire, archaïque, il n'existe pas ailleurs. Ces formes concrètes, elles n'existent pas ailleurs que dans ses retours. Ouais. C'est-à-dire que l'archaïsme n'est tel que dans sa relation à l'actuel. Il fait toujours sens dans le présent. L'archaïque, c'est pas l'originaire. L'origine, c'est ce dont on ne peut pas parler, ce qui est infiniment reculé. L'archaïque, c'est ce qui vient à la place de l'origine et qui parle à sa place. Ouais. C'est le lieutenant, si je puis dire, de l'origine. Donc, quand ils interrogent leur stat, leur vraie question, c'est le rôle de l'État dans la cogestion au sein des sociétés capitalistes, de l'ordre économique. Là, c'est pas seulement un modèle de réalisation de l'axiomatique du capital, c'est pas seulement le fondé de pouvoir du capital, mais c'est l'État qui crée les formes de l'économie. Hein, le travail, la propriété, la monnaie. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y a une tension interne dans leur concept d'État, puisqu'à la fois ils estiment que c'est un mode de réalisation du capital, et à la fois que c'est lui qui crée les formes de l'économie. Mais je pense que le plus important, c'est quand même d'être sensible au fait qu'ils ne parlent pas de formes dépassées avec les archaïsmes, qui seraient là de tout temps, mais ils parlent de néo-archaïsme. C'est-à-dire la manière dont le capitalisme produit toujours de nouvelles formes de crispation identitaire, de fixation résiduelle. Et ça, c'est les points symptomatiques de l'axiomatique du capital. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, dans l'anti-Œdipe, c'est qu'il ne se contente pas d'expliquer les archaïsmes en montrant que c'est une production du capitalisme. Ils essaient de penser comment ces néo-archaïsmes peuvent aussi se charger de potentialités révolutionnaires et antagonistes. Autrement dit, il y a toujours, la question pratique ou la question politique, c'est de parvenir à arracher ces néo-archaïsmes, régionalisme, particularisme, nationalisme, retour du religieux, ce qu'on appelle comme ça.
Ce qu'on entend d'ailleurs actuellement, quand on dit que c'était mieux avant, qu'on pouvait faire plus de blagues, par exemple avant. Ça, c'est un néo-archaïsme, dire qu'il y eut un temps où la parole était libérée et ça n'est plus le cas.
Oui, peut-être. Alors bon, il faudrait savoir ce qu'on appelle cette parole libérée de l'époque. Bon,
C'était un exemple que je mentionnais comme ça.
En tout cas, je pense que oui, ce qu'on appelle aujourd'hui des retours à. Ouais. Retour à la nature, retour au religieux, c'est exactement ça qu'ils veulent identifier. C'est-à-dire, sauf qu'ils écrivent en 72, mais aujourd'hui, la manière dont on peut l'entendre, ce que je voulais dire pour commencer, dont ça nous évoque quelque chose en tout cas, c'est la réaffirmation croissante d'identité collective, de type identitaire, religieux, national-étatiste, et que ces points-là, qui ont surgi dans le contre-coup des formes de subjectivation que suscitaient les formes antérieures de la conflictualité sociale et politique, il s'agit de savoir comment elles peuvent être gagnées à la cause de l'émancipation et arrachées à la réaction. Mmh. Et ça, c'est ce qu'ils essaient de penser dans l'anti-Œdipe, et c'est un pari sur l'avenir, mais qui aujourd'hui consonne avec les problèmes dans les problèmes sociaux et politiques dans lesquels on se trouve.
Ce qu'on entend aussi dans le texte, quand il dit que les sociétés modernes oscillent entre deux pôles, il parle de l'Urstaat, donc qui est cet état, totalitaire, mais imaginaire, violent,
despotique.
Et effectivement, cette idée de pôle qui serait schizophrénique. Donc schizophrène dans le sens où ils l'entendent depuis le début, qui serait futuriste, qui serait du côté vraiment de la résistance en fait à ce despotisme.
Alors justement, en fait, c'est les deux faces de la logique qu'il faut combattre. C'est-à-dire, vous pouvez pas combattre la reterritorialisation par plus de déterritorialisation.
Veut dire que ce pôle-là n'est pas le pôle émancipé du pôle de l'Urstaat, ce qui veut dire en fait que lui aussi est auto-problématique.
Absolument, puisque la question aussi, c'est de savoir comment produire parfois des reterritorialisations actives, de sorte à éviter la destruction totale dans la pure déterritorialisation, qui va être par exemple une manière dont ils définiront, mais alors plus tard dans Mille Plateaux, la machine fasciste, justement, la machine de guerre fasciste. Un flux qui n'a plus aucune limite, un flux de destruction totale. Donc voilà, il ne faut pas schématiser les choses en disant la déterritorialisation, c'est positif, c'est le pôle cool de l'affaire, et la reterritorialisation, c'est le pôle réactionnaire. C'est précisément des combinaisons qu'il faut trouver entre les deux, mais simplement il y a des combinaisons qui ont des vertus ou des potentialités émancipatrices et d'autres qui ont au contraire des potentialités réactionnaires. Mais c'est pas un pôle qui serait émancipateur et l'autre réactionnaire.
C'est pas bien
et
mal. D'où
la complexité.
Oui, c'est pas manichéen chez eux.
Non, et ce qui produit aussi, on comprend bien, pour penser la division politique, pour penser l'antagonisme, une situation extrêmement embrouillée, extrêmement complexe. À partir du moment où on définit la rupture révolutionnaire par le désir, on tombe forcément dans cette immense complexité dans laquelle parfois a tendance à être brouillé le principe de la division politique et le principe, au fond, à la base de toute politique d'émancipation, selon lequel la résistance prime sur la domination. Si vous voulez, à partir du moment où on molécularise comme ça la politique, ça s'appelle la micropolitique, l'exploitation se trouve virtuellement partout. Et donc les voies qui permettent de composer avec elle se répandent aussi toujours davantage. La résistance qui est censée permettre de mettre en échec le pouvoir lui donne aussi par là même les moyens de se perfectionner. Et ça, c'est vraiment la difficulté de cette politique moléculaire et, disons, d'une certaine pensée 68, quoi.
Les caractères inconscients d'un groupe assujetti sont la subordination à un socius, comme support fixe qui s'attribue les forces productives en extrait et en absorbe la plus-value. L'effusion de l'antiproduction et des éléments mortifères dans le système qui se sent et se veut d'autant plus immortel. Les phénomènes de surmoisation, de narcissisme et de hiérarchie de groupe, les mécanismes de répression du désir. Un groupe sujet, au contraire, est celui dont les investissements libidinaux sont eux-mêmes révolutionnaires. Il fait pénétrer le désir dans le champ social et subordonne le socius, ou la forme de puissance, à la production désirante. Producteur de désir et désir qui produit, il invente des formations toujours mortelles qui conjurent en lui l'effusion d'un instinct de mort. Aux déterminations symboliques d'assujettissement, il oppose des coefficients réels de transversalité, sans hiérarchie ni surmoi de groupe. On ne cesse de passer d'un type de groupe à l'autre. Les groupes sujets ne cessent de dériver par rupture des groupes assujettis. Ils ne cessent aussi de se refermer, de se remodeler à l'image des groupes assujettis, rétablissant des limites intérieures, reformant une grande coupure que les flux ne passeront pas, ne franchiront pas, subordonnant les machines désirantes à l'ensemble répressif qu'elles constituent à grande échelle.
Extrait de l'Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari, toujours lu par Nicolas Berger. Nous sommes dans la dernière partie de l'Anti-Œdipe, introduction à la schizoanalyse et cette distinction entre les groupes assujettis et les groupes sujets. Là aussi, Frédéric Rambaud, est-ce qu'on est non pas dans d'un côté un pôle qui serait cool et un pôle qui serait mauvais, on n'est pas dans un manichéisme, mais au contraire, dans ce qu'ils décrivent aussi d'une oscillation permanent dans les groupes de mobilisation politique.
Oui, absolument. Enfin, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est aussi toute la complexité, c'est-à-dire les groupes sujets, les groupes assujettis, c'est pas vraiment en réalité deux groupes opposés, c'est les deux versants de chaque groupe. Ce qui rend évidemment, comme d'habitude, les choses très complexes. Au fond, la question du groupe sujet, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt, à mon sens, dans l'Anti-Œdipe, on pourrait la formuler comme ça, c'est savoir comment on peut convertir la limite en coupure. La limite dont on a parlé, c'est-à-dire cette limite du capitalisme, la production pure, désirante, mais comment on peut en faire une coupure révolutionnaire, c'est-à-dire un lieu d'intervention stratégique. Et quel type de subjectivité serait capable d'occuper une telle limite qui est caractérisée par précisément ce qu'on a dit, c'est-à-dire ces phénomènes de désubjectivation, de désidentification, d'intensité. D'où le fait de faire de la subjectivité, je le disais tout à l'heure, un enjeu stratégique. Bien sûr, là, pour le coup, on peut pas parler des groupes sujets, des groupes assujettis sans revenir un peu sur le contexte politique, parce que sinon, c'est complètement désincarné, quoi. Et il me semble que c'est vraiment cette théorie des groupes ce qui permet de... d'appréhender ce qu'on pourrait appeler dans ces années-là le gauchisme philosophique de la subjectivité. Il y a deux, à mon sens en tout cas, ça c'est sans doute discutable, mais il y a deux grandes références qui sont à la fois prolongées et à la fois considérablement déplacées à cette théorie, à cette pratique des groupes, c'est Lacan, encore une fois, mais aussi Sartre, dans la critique de la raison dialectique. Donc d'un côté, il y a une théorie des groupes freudiens, des groupes psychanalytiques, et de l'autre, qui sont souvent attaqués sous le terme groupe assujetti, et de l'autre, le groupe en fusion sartrien, dans le second tome de la critique de la raison dialectique, la théorie des ensembles sociaux, que Sartre pense à partir des journées d'émeute à la Bastille. Donc le groupe révolutionnaire, mais qui va être aussi une forme de modèle des groupes Mao. Et donc, sous les groupes assujettis, il y a des adversaires extrêmement identifiables à ce moment-là. Quel est le problème dans les deux cas ? C'est de savoir comment résister à ce qu'ils appellent une forme de pente funeste qui fait qu'un groupe toujours local et singulier, qui se détache d'un ensemble social passif, sériel, retombe toujours à partir du moment où il prend une forme organisationnelle, donc avec une spécialisation des tâches, une division du travail et une division institutionnelle qui recoupe cette division du travail. Ouais, voilà, une hiérarchisation exactement de l'organisation. Et bien, dans ces cas-là, il retombe dans le collectif passif, dans la série, dit Sartre, de laquelle il s'était extraite. Et donc, au fond, il y a un côté fatidique, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on prend une forme organisationnelle, on retombe dans les institutions qui ont pour modèle l'État. Et donc, on met fin à la liberté subjective du groupe. Et ça, c'est ce contre quoi, de son côté, Lacan lutte à sa manière, c'est-à-dire,
pas présenté comme ça,
a priori. Mais je veux dire, en même temps, son acte de dissolution, c'est quand même l'idée que l'effet de groupe consolidé, la coalescence imaginaire, ce qu'il appelle l'effet de colle ou décolle, mm-hmm. a pris le pas dans l'international psychanalytique sur la discontinuité de l'énonciation freudienne. Et que donc, il faut faire en sorte que ce désir freudien, cette expérience freudienne, persévère, bon, avec tous les jeux de mots, dans le groupe, sans disparaître au profit d'un groupe qui deviendrait la condition de légitimité de l'expérience freudienne. Et c'est exactement comme ça que Lacan interprète aussi le problème d'un Marx restaurateur de l'ordre. C'est-à-dire que, au fond, dans l'international communiste aussi, l'effet de groupe consolidé a pris le pas sur la discontinuité de l'énonciation prolétarienne. Alors face à ça, ce que font Deleuze et Guattari, c'est qu'ils essaient de répondre, d'une certaine manière, par une clinique au problème de Sartre. Pour éviter que le groupe sujet s'effondre dans la série sociale, il faut introduire une clinique, hein, prendre en compte le désir. Et de l'autre côté, ils essaient de répondre aussi à Lacan en disant pour éviter que le groupe freudien se transforme en groupe assujetti au persévère, c'est-à-dire à Lacan lui-même, eh bien, il faut introduire une critique, c'est-à-dire une théorie politique de l'organisation du collectif. Critique et clinique, c'est vraiment les deux phases de la schizoanalyse, mais on peut aussi les considérer à l'époque comme une tentative de réponse, même si c'est beaucoup plus vaste que ça, mais à un niveau réduit, une tentative de réponse au problème des groupes freudiens et au problème du groupe en fusion sartrien. Contre ça, c'est-à-dire contre cette dialectique de la fondation-dissolution chez Lacan, contre cette dialectique de la sérialité et de la praxis subjective chez Sartre, il propose de penser, de manière non dialectique, la transversalité du groupe.
Ça, c'est important, transversalité. Vous avez une minute, on va dire, Frédéric Rambaud, pour parler de la transversalité, parce que ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire, comment faire un groupe qui soit mobilisé politiquement sans tomber, en fait, dans ce que vous disiez, de groupe assujetti, de groupe de série sociale.
Absolument, sauf que justement, il n'y aura pas de solution pour un groupe particulier.
Ouais.
C'est-à-dire, le groupe ne se sauvera du groupe assujetti que dans son rapport et dans sa mise en rapport, dans sa connexion avec un autre groupe. Mmh. Autrement dit, la transversalité, c'est une manière de repenser l'unification d'un ensemble de groupes révolutionnaires. C'est une nouvelle forme de centralisme. Il ne faut pas opposer le spontanéisme et le centralisme. Il s'agit de penser d'un côté une manière de concilier, une nouvelle forme de centralisme qui concilierait d'un côté la cohérence unitaire qui est nécessaire à toute lutte révolutionnaire et de l'autre l'expérimentation politique dans toute sa diversité, sans reproduire la hiérarchisation bureaucratique des appareils de parti, mais sans reproduire non plus l'isolement sectoriel des luttes spécifiques.
On s'arrête là.
Qui est parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur. Pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou pris de lassitude, il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert. Et il se sentira le cœur là de tous les voyages.
Merci beaucoup Frédéric Rambaud, vous avez éclairé cette partie-là assez difficile sur le rapport de Deleuze et Guattari au capitalisme. On se quitte sur cette chanson Schizo, le voyageur, on aura reconnu Deleuze à la voix et le compositeur Épina, c'était aussi un élève de Deleuze, cette chanson date de 1973. De vous Frédéric Rambaud, on peut lire, je le signale, à contre-temps, Révolte, archaïsme et capitalisme paru aux éditions PUF et les secondes vies du sujet, Deleuze, Foucault, Lacan, disponible aux éditions Hermann. Et bien sûr, pour lire l'Antiodipe de Deleuze et Guattari, c'est toujours disponible aux éditions de minuit. Et maintenant, c'est c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment instituer les contre-pouvoirs ? On sait intuitivement, tous les humains savent intuitivement que l'expérience du pouvoir est accompagnée d'une menace intérieure au pouvoir lui-même. C'est la menace de l'abus de pouvoir, de l'illusion de la toute-puissance, à la fois dans notre rapport au monde, où nous rencontrons des limites objectives à notre pouvoir, à la volonté d'être obéi et que notre volonté se réalise, et dans le domaine intersubjectif où nous devons respecter la liberté des autres. Mais nous savons aussi que le domaine, paradoxalement, où le pouvoir peut devenir absolu, peut remplir ce désir, peut-être intrinsèque à tout pouvoir, de ne rencontrer aucune limite, c'est aussi celui où il a le plus d'effet sur nos vies, c'est la politique. La politique institue en effet un pouvoir qui règne par principe sur toute une collectivité d'êtres humains, de telle sorte qu'elle isole une fonction de pouvoir en instituant justement d'une certaine manière le devoir d'obéir, qu'il s'agit de la nature des choses, comme dans l'Antiquité ou dans le théologico-politique, ou qu'il s'agisse du contrat des êtres humains, nous déléguons un pouvoir qui, là, en effet, rencontre une obéissance légitime, une obéissance obligatoire. Le risque du pouvoir absolu est donc intrinsèque aux politiques. Et tous les théoriciens se sont demandé comment instituer, en même temps que le pouvoir politique, une diversité de pouvoirs qui fonctionnent aussi comme des contre-pouvoirs. Le plus grand théoricien classique de cet équilibre des pouvoirs, c'est Montesquieu dans L'Esprit des lois. Il a pensé cette trinité de l'exécutif, du judiciaire et du législatif, et qu'on le veuille ou non, il a théorisé autrement ce qui définissait aussi, chez Machiavel par exemple, le contre-pouvoir républicain, la liberté des princes, qui toujours empêche le prince dominant de régner absolument, d'avoir cette illusion de la tyrannie du pouvoir absolu. Mais cet équilibre des trois pouvoirs qui se définit dans la Constitution, dans toute constitution démocratique ou républicaine, suffit-il ? Ne faut-il pas aussi instituer d'autres contre-pouvoirs et selon quel principe ? Ce dont on s'aperçoit progressivement depuis justement le XVIIIe siècle, c'est peut-être que tout ce qu'on appelle les libertés fondamentales, les droits de l'homme, ont besoin non seulement d'être protégés, les droits des êtres humains, pardon, ont besoin non seulement d'être protégés par des institutions en quelque sorte critiques qui viennent limiter le pouvoir en protégeant les droits des individus, des êtres humains, mais aussi d'être institués par des types de pouvoirs spécifiques et eux-mêmes encadrés par la loi. Ainsi, la liberté d'expression. Il ne suffit pas de limiter le pouvoir négatif de nuire, par exemple, si l'État ne respecte pas la liberté d'un individu, ou bien si la citation à la haine vient menacer la société comme un pouvoir absolu de détruire. Il faut aussi instituer, pour qu'elle ne soit pas bridée, la liberté d'expression, la protection de la diversité des opinions, dans les limites justement de ce qui rend le pouvoir destructeur. Il y a donc dans toute liberté fondamentale le besoin d'une institution qui constitue cette liberté comme un contre-pouvoir. Tout pouvoir peut devenir abusif. Pour Michel Foucault ou pour Gilles Deleuze, dans la deuxième partie du XXe siècle, le pouvoir était une illusion. Il y avait des pouvoir, le biopouvoir, le pouvoir économique. La question, c'est comment instituer autant de contre-pouvoirs qu'il y a de liberté fondamentale des êtres humains.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Nassim El Kabli et Antoine Ravon. À la réalisation, un peu nos Deleuze et Guattari à nous, Riyad Kera et Nicolas Berger, à la prise de son Alex Dang. Pour retrouver toutes les émissions ainsi que les chroniques de Frédéric Worms, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio France.